Parashavaïtse, pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Masouda Vehilel et aussi Yehudit Odette bat Maïlech Maïssa. Échelle de Jacob. Vayahalom veine sulam mutsav artsa verosho magia ashamaima. Il rêva, on parle de Jacob bien sûr. Il rêva, et voici, une échelle se dressait vers la terre et son sommet atteignait vers le ciel. Je traduis comme ça pour rendre le suffixe e qui veut dire vers. Ça indique une direction, ça a du sens. Voilà, donc on a le pshat pour commencer, bien sûr, le pshat de ce sujet. Et ensuite, on abordera le remèze qui indique que la vie humaine est un chemin d'élévation spirituelle, l'importance de garder le contact avec la terre, puis la partie drache où on voit l'échelle comme montée, comme une sorte de montée spirituelle par la prière et l'étude, et d'autres composantes également. Et enfin, le sode, où on aborde le sujet des quatre mondes des philosophes ou de la Kabbalah. Le pshat, donc le sens littéral qui respecte la grammaire, le contexte, la logique du récit. On a ici une parole qui peut nous étonner. Et il atteignit le lieu, et il y passa la nuit, etc. Et il prit une pierre de l'endroit et la plaça sous sa tête. Le Midrash raconte le départ de Yaakov et son voyage vers Haran, là où vivait son oncle Laban. Avant d'arriver à sa destination, Yaakov s'est dit, est revenu, en définitive, j'abrège un petit peu, il est revenu au lieu, parce qu'il était déjà arrivé à Haran, il est revenu vers Jérusalem en un instant, et il a été transporté sur le mont Moria, au lieu même du sacrifice d'Itsrak, au lieu précis où le roi Shlomo allait, dans le futur, construire le temple de Jérusalem. Et la Torah utilise ce même mot, Makom, pour d'autres passages de la Torah, ce qui nous permet de comprendre qu'il s'agit en fait du lieu du temple. Alors, une remarque, il prit une pierre du lieu. C'est étonnant. C'est étonnant. Parce que Rashi nous explique qu'il a fait un petit mur autour de sa tête afin de se protéger des. Vous m'entendez bien, excusez-moi. Je vais peut-être rapprocher le micro. Ah, très bien. Rashi nous explique qu'il a fait un petit mur autour de sa tête afin de se protéger des bêtes sauvages. Bon, certes, on sait qu'il existait encore à cette époque des lions. En Eretz Israël, même au temps de Shimshon, longtemps après, de Samson. Donc, on comprend l'idée qu'il faut une protection. Mais quel genre de protection est-ce? Un petit mur autour de sa tête avec des pierres. Il aurait pu être attaqué au torse, il aurait pu être attaqué aux pieds, aux bras. Et ce n'est pas son corps qu'il protégeait, mais sa tête, ce qui est une allusion directe au fait que, partant, sortant d'Eretz Israël, il avait besoin de se préparer, de protéger sa tête, surtout qu'il allait vers un lieu particulier, chez Laban. On sait combien mauvais il était. Donc, il n'a pas cherché comme on pourrait le comprendre, simplement protéger sa tête, son corps, mais protéger sa capacité à résister à l'eau. Et donc, avec cet oreiller confortable, il s'est endormi et il voit en songe une échelle dressée vers la terre, dont le sommet touchait au ciel ou vers le ciel. C'est une vision prophétique. Le remèze, abordons le pshat, laissons-le pour l'instant, abordons le remèze. C'est la dimension des allusions, du symbolisme. C'est le niveau de recherche des indices, des symboles cachés derrière le texte biblique. Là, nous avons d'abord un premier plan, qui est le plan de la Gématria, à propos du mot soulam. Soulam. Eh bien, ce mot soulam qui peut être écrit avec ou sans vave. Vous savez qu'il est possible d'écrire des mots en khasser, donc manquant. Des voyelles, des lettres non indispensables peuvent sauter. Soulam, sans le vave, fait un total de 130. Ce qui correspond également à Rani, Rayin Nun Yod, qui veut dire, qui fait allusion à l'aide aux pauvres. Donc on voit déjà que soulam, cette échelle, et a une petite correspondance avec l'aide aux pauvres. Si l'on regarde également ce mot soulam écrit avec le vav, nous avons, vav c'est 6, nous avons une valeur de 136. 136, c'est la valeur numérique de kol, de tsom et de mamon. C'est-à-dire que on a une allusion ici, à la fois à la voix, on se rappelle de la drasha de la semaine dernière, Kol Kol Yaakov, la voix c'est la prière du juif. Tsom c'est le jeûne, la capacité à se repentir, et Mammon c'est l'argent qui va servir justement pour la tzedaka. Donc on voit que cette échelle, un moyen, donc nous avons un remèze, nous sommes dans la dimension du remèze, un moyen de l'élévation du fidèle, disons, du fidèle à Hachem, c'est de penser à ces trois niveaux. L'échelle, il va monter comment? Par sa voix, c'est-à-dire par sa prière, par son étude de la Torah, par le tsaume, c'est-à-dire le jeûne, donc la capacité à se repentir, et enfin, avec l'argent, donc de l'aide aux pauvres. Maintenant, cette vie, la vie ici-bas, la vie humaine, c'est en fait un chemin d'élévation spirituelle. Au niveau allusif, toujours, Remez, l'échelle va suggérer un lien
Un
entre
lien
le monde terrestre et le monde céleste. Cette échelle devient une métaphore entre le ciel et la terre, en quelque sorte, entre le lien entre. C'est une image spirituelle, de symbolique, pardon, une image symbolique de ce chemin spirituel qui permet le dialogue entre Dieu et Hachem. On a là une métaphore puissante où l'on voit que grâce à cette échelle dressée vers le ciel, l'homme peut. Il a la capacité, l'homme, bien entendu, l'être humain, hein, homme et femme, a la capacité de s'élever spirituellement par la prière, par l'étude de la Torah, etc. Mais on nous dit aussi que l'échelle était sur la terre, vers la terre. Et là aussi, ça porte un autre enseignement. C'est un pont entre deux mondes, mais elle est debout. Ce qui n'exprime pas une position statique. Il n'est pas debout simplement, immobile. L'échelle est debout dans une espèce de tension durable qui fait que ça ne bouge, que ça reste droit, ça ne tombe pas. En fait, Rav Hirsch nous explique que Nitzav, comme nous avons écrit ici, Veine Sulam Matsav Artsa, Verosho Magia Shamaima. Et voici, l'échelle était debout, mais nous avons le verbe hébraïque qui est ici, même Tsadé Bet. C'est pas la même chose, on aurait pu avoir autre chose, on aurait pu avoir Omed, qui veut dire debout également. Et la Torah, si elle utilise ce verbe-là plutôt qu'un autre, qui veut dire apparemment la même chose, bien évidemment, cela a du sens. En fait, il ne suffit pas d'être debout, il faut être debout en ayant la volonté de rester debout, dans une
Bien,
permanente
écoute le cours.
tension. Dans une permanente tension, dans la
Cours.
volonté de se diriger vers le ciel. Il faut gravir marche après marche, échelon après échelon. C'est cela l'idée de l'échelle. On ne fait pas un saut comme ça en une seconde et on atteint le ciel. Non, il y a un processus, il y a un travail, et même si l'on est un ange, n'oublions pas, nous avons vu des anges monter. Ils sont montés selon une échelle. Donc, ils respectent des étapes. En fait, en même temps, cette échelle est debout, mais la base est sur la terre. Cela, c'est C'est aussi une leçon de morale importante. Le judaïsme impose, implique l'implication dans la société juive, et non pas la solitude tranquille de l'ermite qui est persuadé qu'il va monter très très haut. Non. L'esprit repose sur le corps. Là aussi, c'est l'échelle qui est sur la terre. L'être humain, y compris son âme, repose sur le sol. En ce sens, il ne doit l'être humain qui abrite, qui a le privilège d'abriter son âme, le corps qui abrite cette âme, ne doit pas malmener cette âme. Il convient ni de faire de la satisfaction du corps une fin en soi, ni de maltraiter ce corps, notamment par ses pénitences que pourraient faire des ermites. On peut faire une petite image à ce propos. Le cavalier peut avoir un excellent cheval, mais il doit quand même entretenir son cheval correctement, lui donner à manger, le reposer, etc., pour qu'il puisse avancer. C'est un petit peu pareil. Et de même, on peut penser à nos maîtres du temps de Léotanaïm, du temps donc de la Mishnah, par exemple, Shammai, il exerçait un métier exigeant. Il était maçon. Il lui fallait une grande force physique. Il n'était donc pas possible de négliger son corps sans manger, par exemple, etc. On peut être extrêmement haut, comme Shammai, comme Hillel, comme tous nos maîtres. Les uns étaient bûcherons, les autres étaient maçons. On le voit avec des anecdotes. Vous vous souvenez peut-être de l'anecdote de Hillel, et qui voit arriver une personne souhaitant se convertir. Et il dit, ah, je viens d'être chassé par Shammai, il m'a poursuivi avec sa règle de maçon. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit que je voulais être juif. C'est très bien ça, pourquoi pas, si tu veux. Et alors, il dit, non, 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 mais moi je veux être juif. Pendant que je me tiens debout sur un pied, tu me dis le judaïsme, mais c'est tout. Et tu crois, c'est pas possible ça. Mais c'est pour ça que l'autre m'a poursuivi avec une règle. Mais bien non, non. Eh ben, c'est pas grave, ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et c'est terminé. Et l'autre, avec cette règle unique, apprise en étant debout sur un pied, ben, après il a approfondi, il est devenu un très bon juif. Donc c'est l'exemple. Mais nous voyons quoi à propos de ça? C'est que les maîtres avaient des métiers exigeants. Il fallait donc nécessairement avoir une échelle qui reposait sur terre et avoir un corps que l'on ne maltraite pas. Sans excès, hein, ni dans un sens ni dans l'autre. Passons, si vous le voulez bien, à l'interprétation homélitique. Bon, on sait que le drash, troisième niveau du pardès, permet de tirer des enseignements éthiques, moraux, juridiques du texte de la Torah, c'est-à-dire du pshat. De toute manière, hein, on parle du pshat en permanence, qui a une validité absolue. L'échelle, on peut la voir comme une montée spirituelle, notamment par la prière et par l'étude de la Torah. Donc, Jacob a compris que cette échelle, c'était une montée spirituelle et que, en définitive, chaque prière, chaque verset étudié, c'est un échelon de l'échelle que l'on gravit de manière à nous rapprocher de Hachem. Dans le texte du Zohar, on va même encore plus loin, puisqu'il est considéré que l'échelle est identifiée à la Torah elle-même. L'échelle de Jacob est identifiée à la Torah elle-même, chaque degré correspondant à un niveau de compréhension spirituelle. Voyons un autre niveau du drash, une autre explication de ce même drache à propos de l'échelle. Vous voyez qu'on est resté vu sur un seul thème de toute cette énorme paracha, qui a des quantités de thèmes importants, mais comme le diamant, quand on le bouge un peu, eh bien, la lumière sort, sort, sort en abondance par des éclats multiples. Les anges, on va les voir comme l'image des mérites et des fautes surtout aussi, des nations. En effet, dans le Midrash Tanhuma, il est expliqué que les anges qui montent et descendent représentent les nations du monde qui s'élèvent et qui, selon l'histoire humaine, eh bien, déclinent. C'est le cas de Babylone, c'est le cas de la Perse, c'est le cas de Rome, c'est le cas de la Grèce avant, bien sûr. On a donc une vision de cette échelle qui est prophétique. On est en train de parler du destin des empires. Rushi, bien entendu, va dans le même sens, hein, c'est à propos de ce thème-là. Et le Saint béni soit-il, montrait à Yaakov les quatre grands royaumes du futur et leur règne, ainsi que leur destruction. On sait pour cela que, enfin, peut-être faut-il le dire quand même, les 70 nations sont protégées chacune par un ange particulier qui la représente auprès de Dieu. Seul Israël n'a pas d'ange particulier puisqu'il est directement représenté en quelque sorte par Hachem qui s'intéresse personnellement à son sort. Donc Dieu a fait voir à Yaakov, comme il le fit d'ailleurs, on s'en souvient quand dans une paracha précédente, Abraham et l'alliance entre les morceaux, donc la vision d'Abraham, c'était le règne de donc le règne de le futur de l'histoire du monde. Eh bien, Dieu fait voir à Yaakov, à travers cette vision de l'échelle, le règne de quatre empires. Encore un autre domaine, toujours dans le dans tout, encore un autre aspect dans le domaine du drache, c'est bien ça. Les anges sont un peu des images, des progrès et des reculs de l'existence humaine. Donc, on sait qu'il est possible de monter, même si, malheureusement, à une époque de sa vie, on a bien chuté. Eh bien, il est possible de remonter quand même. L'échelle, c'est des échelons qui vont bien sûr dans les deux sens. Il est essentiel est de poursuivre, en définitive, une démarche d'ascension vers Hachem. On pourrait aussi voir un autre point, c'est l'importance du mariage, puisque Yaakov n'était pas encore marié à ce moment-là, n'est-ce pas? Et il n'a pas eu le mérite, ou du moins un mérite suffisant, pour bénéficier d'une prophétie de niveau supérieur, une prophétie avec des visions. Il n'a pas vu. Il a simplement un rêve. Donc, cette prophétie était bien sûr supérieure à une simple communication auditive, mais c'était une qualité en quelque sorte inférieure à une vision directe. Je vois que le temps est très vite passé. Je vais vous proposer à présent de nous intéresser au quatrième niveau du Pardès. C'est le niveau de. Disons simplement des domaines un peu mystiques. Eh bien, on se souvient que dans le guide des égarés, Rambam, cette échelle, il a vu en cette échelle une ascension en quatre étapes. Et il cite un passage du Midrash Tanhuma, affirmant que l'échelle de Jacob comportait 4 degrés. 4 degrés, c'est ce que nous avons là. D'autres correspondent, d'autres ont indiqué plus de degrés, comme correspondant en relation avec la durée des empires. Bon. Ici, Rambam nous parle de 4 degrés correspondant aux 4 étapes de la pensée. Pour franchir, que la pensée doit franchir pour parvenir jusqu'à Hachem. Et on lit, voici, une échelle était dressée sur terre. Eh bien, cette échelle, vue sous cette lecture sode, c'est le symbole des relations entre les différentes forces, disons, dans l'univers. Elle était debout sur terre, c'est le monde terrestre, le monde des perceptions, de l'expérience. Le sommet atteignait le ciel, cela nous parle des sphères supérieures. Donc, les anges de Dieu montaient et descendaient, c'est une allusion, disons en quelque sorte, de l'arbre de vie tout entier. Bon, je vous parle de tout cela sans être spécialiste du tout de Kabbale, hein, donc c'est, on prend simplement des éléments les plus simples possibles auxquels personnellement j'ai pu accéder, donc ils sont extrêmement simples, hein, comme vous le voyez, et je cite nos maîtres. Ainsi, Rabbi Yitzhak, non, Isaïe, Alevi Horovitz, qu'on appelle le Shla, au nom de son livre, Les Shneilouchot Abrit, eh bien, le Shla va tenter une synthèse entre la méthode rationaliste et la méthode de la Kabbale. Et il explique que d'après Rambam, les quatre mondes des philosophes correspondent aux quatre mondes de la Kabbale. Les quatre mondes des philosophes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous avons là des idées qui ont été développées notamment par Rambam, mais Rambam a tenté une sorte de synthèse inspirée de la philosophie grecque, Aristote, le néoplatonisme, et il a repris cela notamment dans le Guide des Égarés. Il s'appuie sur cette tradition aristotélicienne des intelligences séparées. Bon, on ne va pas rentrer, on ne va pas réviser tous nos cours de philo de terminale, mais simplement on se rappelle que Aristote a développé une vision du monde structurée par les causes et les formes. Il pensait que l'univers était composé de sphères concentriques, les étoiles, les planètes, etc., qui tournaient éternellement. Mais comment peuvent-ils tourner? Comment peuvent-elles tourner, ces sphères concentriques? Et il expliquait le mouvement par l'idée de moteurs immobiles, c'est-à-dire des réalités spirituelles causant le mouvement sans bouger elles-mêmes. C'est sa théorie des intelligences séparées. Théorie qui a inspiré la distinction entre différents niveaux de réalité dans la philosophie grecque. Bon, après, Plotin, Philon d'Alexandrie vont tenter également d'avancer dans cette direction, et Philon a été encore plus loin puisqu'il a tenté de concilier Torah et philosophie grecque en utilisant justement ces catégories platoniciennes. Et ces schémas vont être intégrés notamment par le Maïmonide. Bon, je voulais indiquer ici que les quatre mondes des philosophes sont, en les prenant l'un par l'autre, hein, nous avons donc le monde des phénomènes matériels, le monde des formes, le monde des forces, le monde des idées. Eh bien, la Kabbale, ce n'est bien entendu pas ces éléments-là qu'elle reprend, mais on retrouve quand même, la philosophie a retrouvé des idées qui étaient développées par la Kabbalah, c'est-à-dire que on a quatre mondes également, et ces quatre mondes sont. Donc on a par exemple l'échelle, puisque n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'échelle, hein, l'échelle, sa base est posée sur Terre, et c'est au niveau du sod une correspondante avec le monde de Asiya, le monde de l'action, le monde matériel. Puis les échelons intermédiaires vont figurer le monde de Yetzira et le monde de Beria, c'est-à-dire le monde de la formation et le monde de la création. Donc on a en quelque sorte les anges et les archétypes. Enfin, le sommet tend vers le ciel, cela renvoie à le monde Hatzilut de la Kabbalah, le monde de l'émanation qui est proche, même s'il reste assez loin, mais il s'approche de l'infini divin. Donc chaque échelon d'échelle peut être lu comme une séphira aussi, comme une émanation divine. Monter, c'est progresser de Malchut, la royauté, vers Keter, la couronne. L'échelle devient donc un chemin de l'âme vers Hachem, l'âme s'élevant degré par degré, traversant les sphères de la sagesse, de l'intelligence, de la beauté, vers l'union avec l'infini. Eh bien, je me suis basé largement sur une synthèse écrite par le rabbin Elie Manque. Ainsi, l'intelligence spéculative va s'élever sur l'échelle de la connaissance. On pourrait aborder la Haftara de Vayetse, là aussi lu à travers le Pardès, puisque vous l'avez compris, hein, depuis quelques semaines, c'est le sens directeur de cette exploration de la paracha. C'est une exploration systématiquement, enfin, on tente, hein, je ne suis pas sûr de réussir, mais disons, on essaye de débrouiller un petit peu les choses vers la compréhension au minimum de quelques bribes autour de ces quatre domaines fondamentaux de compréhension de la Torah, le pshat, le remez, le drash et le sod. Eh bien, le texte de l'Haftara de Vayetse, qui est prise du livre de Hoshéa, Osée, de même, nous pouvons décoder ces quatre niveaux. Nous avons des reproches, c'est le pshat, avec des promesses, c'est toujours le pshat. On a Jacob comme symbole de l'exil et de la lutte du Ram Israël, c'est le remez. On a également un appel à la fidélité, à la teshuva du Ham Israël. On développe ça au niveau du drash. Et enfin, le sod, c'est le combat spirituel de l'âme vers Akadosh Baruch. Et de fait, cette haftara nous expose le reproche de Hachem au Ram Israël. Le prophète Osée, Hoshéa, va reprocher au peuple son infidélité, ses tromperies. Mais en même temps, il rappelle que Dieu ne l'abandonnera pas. Et à ce propos, et nous voyons ici le lien avec la paracha, en même temps, le prophète évoque Yaakov, qui, malgré ses épreuves, resta fidèle et triompha de ses adversaires. On a donc, dans ce pshat, un appel à la fidélité envers Dieu, malgré les fautes. Le remez, c'est une allusion à la condition du Ram Israël. La fuite de Jacob vers Aram, vers Haran, Aram c'est la région, c'est la Syrie, renvoie à l'exil d'Israël. Le combat de Jacob avec l'ange fait allusion aux luttes spirituelles du peuple face à ses tentations. Et Israël doit, tout comme Jacob, transformer les épreuves en chemin vers Hachem. Le drash, on peut développer ici une leçon de morale. Yaakov, modèle de persévérance, modèle de fidélité. Et quant à Oram Israël, il doit revenir à Dieu, sa teshuva, par l'étude de la Torah et la prière. Enfin, le dernier niveau, on le retrouve aussi, bien entendu, dans la Haftara, ce serait une lecture qu'on dirait kabbalistique, Jacob incarnant l'âme qui lutte pour s'élever. Sa fuite, son combat vont symboliser les passages de l'âme à travers les mondes spirituels, et la promesse divine va exprimer l'union finale entre l'homme et Dieu. On a donc là, au niveau, je dirais, un peu mystique, une révélation par la Haftara du chemin intérieur de l'âme vers l'infini divin.